Et puis on va passer à la table ronde numéro 3, donc qui est sur. Excusez-moi, le téléphone c'est bien, mais c'est un peu perturbant. La table ronde numéro 3, qui est justement sur les questions de l'information et sur tout ce qui se passe. Alain Fischer, vraiment merci encore. Et comment peut-on s'inspirer, tirer les bonnes leçons de la crise? Et je suis très content de voir que beaucoup considèrent qu'il y a des aspects positifs sur lesquels il va falloir rebondir. Donc, ça va nous donner des possibilités d'action nouvelles, très certainement, pour les futures années qui viennent. Et donc, je suis très heureux d'accueillir également, nos intervenants sur cette table ronde. Donc, Gérard Thibault, qui est patient expert et administrateur de l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde Landard. Laura Letourneau. Laura, j'ai vu que vous étiez là. N'hésitez pas à brancher votre caméra.
Oui, bonjour.
Bonjour Laura. Très plaisir de vous accueillir. Délégué ministériel au numérique en santé, il y a beaucoup de questions qui ont déjà eu lieu autour de l'espace numérique de santé. Vous allez pouvoir nous apporter des réponses. Et pour avoir écouté Marguerite Cazeneuve il n'y a pas longtemps, je sais qu'il y a vraiment des choses qui sont des choses nouvelles qui vont être mises en place, qui vont être tout à fait facilitantes pour les malades. Donc, on reste encore une fois dans une communication très positive et ça fait du bien. On a le professeur Milou Daniel Drissi, qui est directeur du Centre régional de pharmacovigilance de Nice, excusez-moi, qui est également présent. Véronique Guillotin, que j'ai présentée tout à l'heure, donc sénatrice de Meurthe-et-Moselle, et également présidente de la commission santé de la région Grand Est. Et puis on a Arnaud Billy, qui est senior vice-présidente stratégique développement de Maya, et qui nous donnera comme ça quelques informations sur comment une entreprise privée, on a beaucoup parlé de Covid Tracker tout à l'heure avec Alain Fischer, mais il y a d'autres entreprises et il nous a semblé extrêmement important d'avoir le témoignage et la vision d'un industriel qui met des outils à disposition pour voir comment on peut amplifier cette mobilisation générale, puisque pour ceux qui n'étaient pas là, en particulier pour Laura, on a décidé que le 13 janvier 2022, ce serait la mobilisation générale de toutes les forces vives pour la vaccination et en particulier pour celle des personnes à risque et des personnes immunodéprimées. Donc c'est un grand jour auquel on participe. C'est un peu comme le serment du jeu de paume. Donc on va y aller tout de suite et je donne la parole à Gérard pour qu'il nous présente d'abord Landard, parce que tout le monde ne connaît pas Landard. Ceux qui travaillent dans les maladies chroniques savent combien le rôle de cette association est important, mais il faut expliquer aussi pourquoi et voir comment, en fin de compte, les gens de Landard, et Gérard en particulier, ont pu apprécier ce qui s'est passé pendant la crise, en tirer un certain nombre de leçons dont on pourra discuter ensuite.
Bien. Merci de me laisser la parole. C'est vrai que j'avais quelques petites démangeaisons depuis ce matin, 8h30. Enfin, ça y est, on est à la table.
On n'entend pas très très bien, c'est pas très fort comme son.
C'est pas très fort. Je vais peut-être hausser la voix alors, tout simplement, si c'est meilleur.
Voilà, ça
Voilà.
c'est bien.
Donc, oui, je suis administrateur de Landard, qui est l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde. Et c'est un engagement que je mène à bien parce qu'en fait, moi, j'ai rencontré la polyarthrite à l'âge de 9 ans. Donc, ça fait quelques années que je véhicule cette pathologie. Et je vais parler, mais très rapidement, de mon parcours personnel puisque, donc, en 1960, on m'avait laissé croire, au travers des informations de l'époque, que j'avais octroyé cette maladie de par la vaccination antivariolique. Et c'est vrai que j'étais, après, au cours des années, peu favorable, bon, je pense qu'on peut le comprendre, peu favorable à la vaccination. Heureusement, au travers des années, en récupérant des informations, des bonnes informations, ben, mon point de vue a totalement changé, comme quoi je pense qu'il ne faut jamais désespérer et on peut effectivement retourner certaines situations. Et puis, moi j'ai un éclairage enfin, personnel, c'est que j'ai connu quand même les gens touchés par la polio, des gens dans les fauteuils roulants, des gens en train de se traîner sur les trottoirs. Et cette pathologie que j'ai moi-même rencontrée a totalement disparu. Et là, ben, il n'y a pas de remède miracle, hein. C'est, on peut le dire, grâce à la vaccination. Donc tout ça m'a vraiment incité à rejoindre après le groupe Avenir, que j'ai rejoint donc avec grand plaisir. L'association ONDAR, je suis également patient expert, donc j'interviens en éducation thérapeutique du patient. Et c'est pour moi un moment important où l'on rencontre donc des gens immunodéprimés, c'est-à-dire qui sont sous traitement. Et c'est le moment important pour leur parler de l'intérêt de la vaccination. Et même beaucoup de patients découvrent effectivement cet intérêt. Et puis, un point important également, j'interviens au niveau des écoles d'infirmières. Et là, c'est pareil de pouvoir parler de la pathologie et de l'intérêt de la vaccination. Un point extrêmement, extrêmement important à l'instant T et surtout pour ces gens-là au travers de leur carrière professionnelle. Et puis, on a parlé à maintes reprises du rôle de l'élu. Alors, moi, je ne suis pas sénateur, loin s'en faut, mais je suis un petit élu local. Là, je suis adjoint au maire d'une commune de 1000 habitants. Et pendant le lancement malheureusement de cette pandémie, je suis intervenu à côté de la population parce que je veux vous assurer que même s'inscrire simplement à un vaccinodrome au début de la pandémie, c'était loin, loin d'être facile. Donc je suis intervenu pas mal sur la vaccination et je crois que le maire n'est pas mécontent aujourd'hui d'avoir un adjoint qui est un petit peu bancal au niveau de la santé. Voilà, ça ne lui déplaît pas. Alors, une grande partie de mon univers, c'est les gens immunodéprimés, puisque dans nos pathologies, et c'est là où il y a un mouvement de groupe au niveau d'avenir, c'est qu'on a tous plus ou moins les mêmes traitements et qui vont pour avoir objectif de baisser les défenses. Et alors, ces défenses, elles vont enrichir, entre guillemets, notre quotidien, puisque notre quotidien, c'est des infections urinaires, c'est des pneumonies, c'est du staphylocoque, c'est des sinusites. Bref, c'est un job à temps complet. Et là, on peut comprendre que si on peut éviter quand même de récupérer une grippe en plus, un pneumocoque en plus, ben je pense qu'il est de toute évidence qu'on a intérêt à jouer la carte de la vaccination. Alors, on l'a vu là ce matin au travers de différentes enquêtes, les résultats donnés par le docteur Paul Loubet et puis repris par d'autres associations. Donc, je ne vais pas tout reprendre, mais juste quatre chiffres, puis ça tombe bien, je suis de formation comptable, mais je ne vais pas vous embêter longtemps. Quatre chiffres au niveau des informations. Les patients sont vraiment en attente d'informations et on a 79% d'eux, 79% qui veulent savoir vraiment à quoi sert le vaccin en fonction de leur état de santé ou de leur traitement. On a 60% qui veulent savoir pourquoi ils se font vacciner? Toujours revient sans arrêt hein, le manque d'informations. On en a quand même 57% qui demandent à quel moment on doit se faire vacciner. Parce que c'est vrai que toutes les semaines ou tous les mois, on intervient avec nos perfusions, nos subcutanées, et on a du mal à savoir à quel moment on doit se faire vacciner. Alors pour avancer, ne pas reprendre tout ce qui a été dit ce matin, mais moi, j'aimerais développer quelques axes sur lesquels ça me semble hyper intéressant pour améliorer le taux de couverture vaccinale. C'est certainement aujourd'hui un des moyens, mais important, c'est la communication au niveau du grand public et au niveau de la campagne des réseaux sociaux. Très intéressant de noter que les médecins se sont portés ambassadeurs spontanés de la vaccination, notamment dans le cadre du Covid. Et c'est important parce qu'en fait, les patients, à 86%, ont vraiment confiance dans le message qui est donné par le médecin généraliste et à 66% par les spécialistes. Et je n'ai pas le pourcentage, mais intervient aussi, arrive juste derrière, le milieu associatif. Donc, notre rôle est vraiment très, très important. Donc, travailler la communication au niveau des réseaux sociaux. Il y a un axe qui paraît également essentiel, on l'a fait avec Avenir, c'est des grandes campagnes annuelles. Et notamment, la campagne annuelle de la grippe ou Covid là, qui vient d'être faite, pourquoi ne pas le relayer au niveau des autres vaccinations qui sont totalement recommandées? On a parlé du HPV tout à l'heure qui est sous-représenté, notamment le pneumocoque. Et puis, on va le voir tout à l'heure, mais je travaillais sérieusement le dossier parce que nous avons Madame la déléguée ministérielle au niveau de l'espace numérique. Donc, effectivement, arrive au mois de janvier, et ce sera bien de communiquer là-dessus, nous, les associations et d'autres médias, sur l'arrivée de Mon Espace Santé, qui, je crois, s'il n'est pas né, est en train de sortir au travers des forceps et va être vraiment mis à notre disposition à partir donc, du mois de janvier, et qui va contenir des informations complètement indispensables, notamment venant du DMP. Et on espère, nous, en tant que patients, en tant qu'association, que cet outil, ce sera également une possibilité de proaction par rapport à la vaccination. Je souligne que le parcours de vaccination aujourd'hui est quand même extrêmement compliqué pour savoir où on en est, à quel moment je dois me faire vacciner, le pneumocoque tous les 5 ans, la grippe tous les ans. Donc, un parcours extrêmement, extrêmement compliqué. Et puis, moi, je voudrais terminer enfin, ma présentation en soulignant que la vaccination, c'est l'affaire de tous. Et là, je vais faire peut-être une petite page de pub, mais très, très rapide. Donc, j'habite Toulouse, sur la région Occitanie. Et on a mis en place en 2018 un collectif, mais associatif et professionnel de santé et gouvernement. On a des médecins, des professionnels de santé. Donc, on a mis un collectif en place et qui s'est transformé il y a un an, en décembre 2021, en association Vaccitanie. L'objectif est vraiment de promouvoir la vaccination sur cette région, d'autant plus qu'au travers des chiffres que l'on a, c'est une région qui est sous-vaccinée. On a Toulouse, la ville, la métropole, là, qui est plutôt correcte, mais après, on a tous les départements alentours, les départements un petit peu ruraux, le Gers, l'Ariège, où là, les gens ont vraiment un déficit important. Et c'est là où Vaccidanie va travailler sur cet axe-là. Et dernier petit point, fin juin 2022, probablement le 30, mais on va organiser une très grande rencontre nationale au sein du réseau Territoire et Vaccination. Et on aura les villes de Lyon, Nice, Bordeaux, Nantes, Angers et l'Ardèche. Donc, cette journée sera organisée à Toulouse. Voilà les différentes actions que moi, en tant qu'association, je souhaite mettre en avant. Et je pense qu'on a vraiment un rôle important à jouer pour rehausser ce niveau de vaccination. Et moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'effectivement, la COVID semble écraser effectivement tout le bienfait des autres vaccinations qui, en ce moment, sont en recul. Donc, on a encore, je pense, beaucoup de travail au niveau de la vaccination. Alors, peut-être avant de, au cas où j'oublierai, je voudrais vraiment, vraiment remercier déjà tous les intervenants de ce matin, et entre autres le professeur Odile Launay, qui est sans arrêt et spontanément à nos côtés, le professeur Alain Fischer, là, qui vient d'intervenir, docteur Paul Loubet, le Bernard Charpentier, au début, qui est intervenu, Yves Buisson, et puis un grand merci également au cabinet Nil qui fait de cette journée une belle réussite. Merci Olivier. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vais le répéter. Et merci aussi aux gens qui se sont connectés depuis ce matin, qui sont restés fidèles en connexion. Un grand merci à tout le monde.
Merci Gérard pour tous ces encouragements. C'est très sympa. Je m'aperçois que j'ai fait une grosse faute de goût parce que j'ai présenté Milou Daniel Drissi, mais je n'ai pas présenté Fanny Rocher qui travaille avec lui. Et donc, Fanny, je vous salue au passage. Et on reviendra justement avec vous et avec Milou Daniel tout à l'heure dans la discussion. Je vais passer tout de suite la parole à Laura. Laura, vous êtes très, très attendue. L'espace numérique en santé, c'est vraiment quelque chose qui a fait une des épines dorsales de toute la communication dans la table ronde numéro 1 et la table ronde numéro 2. Tout le monde attend beaucoup de cet outil. Et est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire comment il va se déployer, quand il va se déployer, ainsi de suite? Alors, vous êtes en mute.
Oui, voilà. C'est bon. Merci beaucoup, Olivier. Peut-être essayer de resituer mon espace santé dans le panorama global du numérique en santé, et puis refaire des petits points de contexte et revenir sur l'historique avant de zoomer là sur le très court terme et puis sur le lien avec la vaccination. Donc, Pour resituer le sujet, l'aventure a commencé début 2019 avec le lancement de la feuille de route du numérique en santé qui s'ancrait dans un constat un peu déprimant hein, qui avait été porté par Dominique Pont, avec qui je travaille en binôme, et par l'assurance maladie, qui était de dire on sait que, j'ai presque envie de dire, malheureusement, le numérique en santé est un moyen indispensable derrière pour arriver à tous les buzzwords qu'on répète tous à longueur de table ronde, de rendre le citoyen acteur, d'aller vers plus de prévention, d'aller vers une médecine 4P, d'avoir de la coordination entre le sanitaire et le médico-social, la ville et l'hôpital, de décloisonner, etc. Donc, on ne va pas y couper, et son objectif profond au numérique en santé, c'est de contribuer à ça. Ce n'est pas une fin en soi. On s'en fiche de faire du numérique pour faire du numérique. L'objectif, c'est vraiment une meilleure prévention, une meilleure coordination, un patient acteur, etc. Aujourd'hui, il y a en tout cas 3 ans en arrière, au moment où a été fait le rapport, le constat, il était déprimant. Voilà, il était de dire aujourd'hui, les outils numériques ne sont pas au niveau. Ils ne sont pas suffisamment interopérables, ils ne sont pas suffisamment sécurisés. Il y a des problèmes de formation des professionnels de santé, etc., etc. Et donc, collectivement, nous tous qui faisons la e-santé en France, nous, pouvoirs publics, nationaux, régionaux, professionnels de santé, industriels, éditeurs historiques comme start-up, hôpitaux, etc. Collectivement, là, on a raté quelque chose. Donc, il faut tous qu'on balaye devant notre porte et qu'on fasse en sorte que ce soit mieux demain. Donc, a été publiée en avril 2019 la feuille de route du numérique en santé, 5 grandes orientations, 30 actions, dont une action phare, effectivement, qui est l'espace numérique de santé, qui depuis a été renommé Mon Espace Santé, pour aussi bien montrer que c'était l'espace numérique du citoyen, et que le numérique, en fait, était un peu accessoire hein, dans le nom de cet outil, et qui tire, en fait, quasiment toutes les autres actions de la feuille de route. La feuille de route, elle s'inspire de la doctrine que j'avais théorisée il y a 5 ans dans un livre avec Clément Berthollet qui s'appelait « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent », qui est la doctrine d'État plateforme, que Dominique, lui, appelait pas comme ça, mais fort de son expérience de 20 ans sur le terrain en tant qu'ingénieur informaticien, puis DSI, puis DG d'un hôpital, avait dit « il faut urbaniser les systèmes d'information en santé et tout ce bazar-là, en s'inspirant du mode de gouvernance d'une ville dans laquelle les pouvoirs publics ils font 2 choses, ils font les règles. Dans une ville, ils font le code de l'urbanisme. Dans le numérique en santé, ils font les règles d'éthique du numérique en santé, d'interopérabilité, de sécurité. Mais ils font aussi les infrastructures de base qui permettent d'échanger le partage. Dans une ville, les routes, le réseau d'égouts, le réseau d'électricité. Dans le numérique en santé, ce qu'on appelle les communs numériques, le dossier médical partagé dont on va reparler, la e-prescription, la messagerie citoyenne, etc. En revanche, ce n'est pas à nous de faire toutes les maisons individuelles dans une ville. Voilà, on fait un H&M de temps en temps quand il n'y a pas de business model que le privé ne s'en saisit pas. De la même façon, dans le numérique en santé, ce n'est pas à nous de faire tous les services numériques en santé. Voilà, tous les services de prise de rendez-vous, de téléconsultation, d'intelligence artificielle, des objets connectés, des systèmes d'information, des pharmaciens, des médecins, des EHPAD, de la protection de l'enfance, etc. Évidemment, ce n'est pas à nous de faire ça, ce n'est pas notre métier. En revanche, notre métier, c'est de faire en sorte qu'ils émergent et qu'ils émergent dans le cadre de valeurs que nous, pouvoirs publics, garants de l'intérêt général, on garantit. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces services numériques, ils doivent respecter les règles d'éthique, d'interopérabilité, de sécurité, et qu'ils doivent se raccorder à nos communs numériques en lecture et en écriture, le DMP, l'agenda, la messagerie citoyenne, etc. Tout comme dans une ville, les maisons individuelles, elles doivent respecter le code de l'urbanisme, et elles doivent jeter leurs égouts dans le réseau d'égouts et pas dans le jardin du voisin. Donc ça, c'est la doctrine qu'on a posée, qui imbibe hein, toute la feuille de route, et depuis 3 ans, à marche forcée, avec tous les acteurs, que ce soit les acteurs publics au niveau national, les acteurs régionaux, mais aussi tous les acteurs qui font le numérique en santé en vrai sur le terrain, les industriels, les professionnels de santé, les hôpitaux, etc., on avance à marche forcée dans notre culture, là, qui est celle des petits pas rapides, où on n'attend pas le grand soir pour faire quelque chose, on n'attend pas la norme d'interopérabilité parfaite, mais on se dit, en fait, aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'échanger des PDF par messagerie sécurisée. Donc, peut-être qu'on va commencer par là. Et 6 mois après, on n'attend pas 6 ans après, 6 mois après, on va faire en sorte qu'on structure les métadonnées du document. Et puis encore ensuite, on va rentrer dans l'interopérabilité sémantique. C'est vraiment la culture dans laquelle on a essayé de se mettre tous collectivement pour faire avancer depuis 3 ans à marche forcée cette feuille de route. Donc on a réussi encore une fois ensemble, et juste parce qu'avant on ne travaillait pas ensemble et que maintenant on travaille ensemble, et c'est la clé, et ce sera aussi la clé du succès de Mon Espace Santé. On n'y arrivera pas tout seul, nous, pouvoirs publics. On a tous une part de responsabilité à jouer, y compris les citoyens. On a réussi à faire en sorte de craquer tout un tas de serpents de mer auxquels on ne croyait plus. Hein. Moi, quand je suis arrivée dans la santé numérique il y a 3 ans, c'était fou à quel point, en fait, on n'y croyait plus, tellement on avait vécu collectivement d'échecs. Donc, on a réussi à faire en sorte d'enfin sortir l'identité nationale de santé, qui est la brique de début, du début, de la base de l'interopérabilité. On a fait en sorte de faire une messagerie sécurisée citoyenne à l'échelle de toute la France. Alors on nous disait, y compris tous les experts techniques en interne, que c'était impossible. Les pilotes de Mon Espace Santé ont montré que ça fonctionnait, et c'est extrêmement utile. On a remis à jour tous les annuaires, on a fait en sorte que les infirmiers passent de la DELI au RPPS. Ça paraît être un sujet technique, mais sans ça, on ne pouvait pas donner accès aux infirmiers pour vacciner, par exemple, un vaccin Covid. Enfin, c'est des sujets techniques, mais qui derrière ont des implications massives. On a fait en sorte d'avancer sur le serveur multiterminologie d'interopérabilité, de remettre à l'état de l'art le DMP avec l'assurance maladie, d'avancer sur tous les sujets éthiques qui nous tiennent énormément à cœur, les sujets de fracture numérique, les sujets d'impact écologique du numérique en santé, les sujets d'application réelle du RGPD, le sujet de l'implication des citoyens dans la gouvernance qui pour nous est au cœur de tout et aussi qui va nous aider à répondre à tout un tas de problèmes qui se posent aujourd'hui. On a avancé sur les sujets d'innovation là, avec France Relance, sur des sujets de formation des professionnels de santé qui étaient bloqués depuis des années parce qu'on n'arrivait pas à se parler avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur des sujets d'attractivité RH des DSI hospitalières, par exemple. On a réussi enfin avec la DGOS à revaloriser les grilles pour qu'un responsable de la sécurité d'un système d'information dans un hôpital ne soit pas payé 1 700 € net par mois, parce que sinon c'est impossible d'avoir quelqu'un avec une expérience suffisante qui soit capable de traiter de problèmes hyper compliqués avec des enjeux qui sont potentiellement dramatiques derrière. On a avancé sur le sujet d'accès au remboursement dans une logique européenne internationale. Donc, je ne vous liste pas tout ce qui s'est passé, mais collectivement, du fait qu'on travaille ensemble, on a réussi à montrer que c'était possible, y compris sur des sujets compliqués. Un des projets clés de la feuille de route, c'est Mon Espace Santé, c'est la partie émergée de l'iceberg pour les citoyens, qu'on remet vraiment au centre, et on les remet pas juste au centre sur une slide, on leur donne vraiment un outil numérique pour les mettre en capacité d'être acteurs de leur santé, qui est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est 3 briques natives, c'est le dossier médical partagé, qu'on a renommé dossier médical, qui est une des briques dans lesquelles vous pourrez ajoutez vos données de santé. Voilà, si vous voulez passer 2 heures de votre dimanche après-midi pour pendre votre bannette papier, prendre en photo vos comptes rendus d'hospitalisation, votre compte rendu de bio, vos documents médicaux qui ne sont pas dans votre DMP si vous en avez déjà ouvert un, eh bien, vous pouvez le faire. Et puis, on y reviendra évidemment avec le Ségur et les 2 milliards d'euros d'investissement. On est en train de porter les 12 travaux d'Hercule pour connecter en des temps absolument records tous les logiciels de France, des hôpitaux, des EHPAD, du médico-social, des pharmaciens, des médecins libéraux, des biologistes, des radiologues, tous ces gens-là mettent leur logiciel à jour pour qu'ils respectent nos fondations de la maison, là dans la maison qu'on présente tout le temps, donc toutes nos règles d'interop, de sécurité, d'éthique, et aussi qu'ils se connectent au DMP pour qu'ils puissent l'alimenter enfin automatiquement et que le DMP ne reste pas une coquille vide comme c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui avec peu de données dedans. Donc une des briques qui est le dossier médical. Une autre brique qui est un agenda partagé dans lequel on va pouvoir retrouver de façon consolidée tous ces rendez-vous de santé. Et cet agenda partagé, il est essentiel non seulement pour qu'une personne, on pense notamment aux malades chroniques, puisse retrouver tous ces nombreux rendez-vous en un même endroit, peu importe qui les ait pris sur Doctolib, sur une autre plateforme, sur le portail propriétaire de rendez-vous d'un hôpital, etc. Il faut qu'ils puissent avoir une vision consolidée et il faut aussi qu'on puisse utiliser cet outil justement pour faire de la prévention et des rappels. Deuxième brique, une autre brique native qui est la messagerie sécurisée citoyenne. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on demande un renouvellement d'ordonnance à son médecin en lui écrivant par Gmail, alors que quand on écrit à son banquier, on écrit par une messagerie sécurisée. Il y a un vrai problème. Donc, on a enfin réussi à mettre sur pied une messagerie sécurisée pour écrire et garantir le secret médical autour de ces données quand on échange avec son infirmier, son kiné, son pharmacien, son hôpital, etc. Et puis, quatrième brique, qui est un peu la consécration de ta plateforme et qui montre toute cette ouverture vers l'écosystème dans une logique de « on prend le beurre et l'argent du beurre », c'est-à-dire on a un catalogue de services qui est un peu un app store, quoi, visuellement en tout cas, dans lequel seront référencés tout un tas de services numériques publics et privés à condition de respecter les règles et de se raccorder aux infrastructures. Donc, si on a un service numérique qui est dans ce catalogue, c'est la garantie pour le citoyen que ce service numérique, il est éthique, interopérable et sécurisé, parce que nous, on aura ouvert le capot dans le cadre du référencement, on a ouvert le guichet de référencement là en décembre pour bien vérifier que les règles sont respectées. Donc voilà, cette application, si elle est là, elle ne va pas vendre mes données de santé à une assurance. Voilà, il y a quelqu'un qui a regardé pour moi, je n'ai pas moi-même à me taper les CGU, etc. Et par ailleurs, ces applications-là, si le patient en est d'accord, pourront avoir accès en lecture et en écriture aux briques natives de mon espace santé, notamment le dossier médical et l'agenda. Pourquoi ? Parce que derrière, ça permettra de développer massivement l'innovation par tous ces services numériques tiers au bénéfice du citoyen. Donc ça, c'est mon espace santé. Mon espace santé, où est-ce qu'on en est ? On a lancé là, à l'été, des pilotes dans 3 départements qui ont été très positifs, puisque à la fois, ça nous a permis, c'était l'objectif premier, de tester techniquement que ça marche. Hein. Enfin, il faut se rendre compte des volumes dont on parle. Hein. On est en train de parler de mettre un outil numérique à disposition de 60 millions de Français, avec des échanges de données massifs, que ce soit via le DMP ou sur des messageries sécurisées. C'est des défis techniques qui sont colossaux. Le défi technique colossal, je parlais de la messagerie sécurisée citoyenne tout à l'heure, c'est aussi celui de l'opt-out. Vous savez, la grosse différence par rapport au DMP, c'est que au lieu de que les gens doivent ouvrir proactivement leur compte, ils reçoivent un courrier, ils peuvent s'opposer à la création de mon espace santé. S'ils ne s'y opposent pas, mon espace santé est ouvert 6 semaines après. Et ce mécanisme-là est clé, c'était essentiel pour nous pour débloquer l'échange de données. On a observé dans les régions pilotes que les hôpitaux, n'avaient plus à se poser la question de est-ce que le patient que j'accueille a un DMP qui est ouvert, puisque dans 99% des cas, c'est le cas. Et donc, en fait, ils ont débloqué massivement l'envoi des comptes rendus d'hospitalisation, des prescriptions de sortie, des lettres de liaison au DMP, juste parce qu'en fait, on a rompu le cercle vicieux de « j'alimente pas parce que derrière, c'est pas ouvert et j'ouvre pas parce qu'en fait, de toute façon, c'est vide ». Donc, premier point sur les pilotes. Deuxième point, il y a eu des très bons retours sur l'ergonomie du produit, avec une ergonomie qu'on a voulu vraiment simple et léchée. Et en tout cas, voilà, c'est une amélioration continue dans tous les cas, mais c'était important pour nous de le tester. Les retours étaient bons. Troisième point, on a pu tester tout un tas de cas d'usage, notamment des cas d'usage, il y en a plein, mais par exemple, autour de la préadmission à l'hôpital. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Et puis, on a pu tester l'opt-out. Alors, avec des résultats qu'on prend vraiment avec des pincettes, que parfois on ne cite même pas. Aujourd'hui, il n'y a que 0,7% de personnes qui s'opposent à mon espace santé dans les départements pilotes. Mais dans la mesure où la communication a été limitée, puisque l'objectif principal était de tester les aspects techniques, etc., et puis vu les polémiques actuelles, etc., on a un petit peu peur aussi que ça déteigne sur mon espace santé. Voilà, on ne s'avance pas sur ce point. En tout cas, aujourd'hui, le taux d'opt-out dans les départements est de 0,7%, ce qui est extrêmement faible. Dans un projet similaire en Australie il y a quelques années, le taux était de 10%. Deuxième point, là, on est sur la généralisation. Début 2022, comme annoncé. Alors, s'il n'y avait pas eu Omicron, on aurait fait la conférence de presse aujourd'hui. Comme il y a Omicron, ça sera dans quelques jours. Mais donc, il faut quand même se rendre compte, hein, les projets informatiques de cette ampleur qui tiennent les délais, il y en a très, 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 très peu. Donc, le fait que collectivement, avec l'assurance maladie, avec tous les gens qui ont contribué, on arrive à lancer dans les délais, c'est quand même assez exceptionnel. Et évidemment, tout n'est pas parfait, mais il faut quand même le noter. Voilà. Donc, généralisation à tous les Français là, dans quelques jours, semaines, accompagné d'un déploiement massif tant des citoyens sur tous les aspects fracture numérique. Voilà, là, on est en train de faire en sorte qu'il y ait une armée mexicaine sur le terrain pour que chaque Français puisse se retourner vers une personne, alors des personnes du support évidemment, mais aussi une personne en physique, notamment ceux qui sont les plus éloignés du numérique, pour comprendre comment fonctionne mon espace santé, pour qu'ils s'y opposent s'ils le souhaitent, pour qu'ils gèrent l'accès à leurs données de santé, puisque c'est une des vocations premières de mon espace santé. J'en ai pas parlé, mais il y a un cockpit des accès dans mon espace santé, etc. Donc, on a travaillé avec les réseaux santé classiques, que ce soit côté des CEPAM avec des agents au guichet, ou que ce soit dans tous les autres réseaux en lien avec les élus locaux, en lien avec l'Agence nationale de cohésion de territoire, les maisons France Service, les conseillers numériques France Service, les hubs de médiation numérique qui existent déjà, les aidants connect, les 24 000 aidants connect qui existent. On est en train de former tous ces gens-là à mon espace santé pour qu'ils deviennent des ambassadeurs mon espace santé et qu'on en fasse une priorité et qu'eux-mêmes puissent aller former les citoyens ensuite. Il va par ailleurs y avoir des spots télé qui vont être lancés en février, etc. Enfin là, la communication va vraiment se lancer là, à partir du mois de février. Deuxièmement, gros accompagnement des professionnels de santé, en très fort lien avec le Ségur et les 2 milliards dont j'ai parlé, là, des 12 travaux d'Hercule pour rendre tous les logiciels compatibles, et notamment faire en sorte que l'accès au DMP et l'envoi de documents dans le DMP, dans le dossier médical, soit vraiment facilité par rapport à ce que c'est actuellement, que ça puisse être intégré de façon ergonomique au logiciel avec un envoi automatique si le professionnel de santé le souhaite. Donc, et il va y avoir une campagne de l'assurance maladie, là, des gens qu'on appelle les CIS et les DAM, qui vont venir accompagner les médecins, les pharmaciens, etc. sur ces sujets. Ce qu'il faut avoir en tête, après je parle dans deux secondes de la vaccination, je pense que j'ai bien dépassé mon temps, c'est que ça ne va pas être le grand soir. Voilà, ça va être une dynamique de petits pas rapides, comme depuis le début. Donc là, on va lancer mon espace santé. Progressivement, ça va s'enrichir de fonctionnalités. Progressivement, les logiciels des professionnels de santé vont être mis à jour. Il y aura une alimentation automatique. Et cette logique de petits pas rapides, on la rend très concrète puisqu'on va publier au moment de la conférence de lancement la roadmap publique de mon espace santé sur ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, et qui est agrémenté d'ailleurs par le comité citoyen et les recommandations du comité citoyen du numérique en santé, la 30 citoyens tirés au sort, plus 5 assauts de patients tournantes qui ont rendu leur rapport hier, on le présentait avec Michel Simès, qui est d'une intelligence et d'une finesse qui honnêtement redonne foi en la démocratie. Et effectivement, je fais le lien avec ce qui était dit avant sur parfois les débats avec des fake news, y compris à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même assez inquiétant. Là, honnêtement, ça rassure énormément quand on prend le temps de former les gens sur deux week-ends, hein, juste, c'est pas non plus 4 mois, et ben, ils font des propositions qui vraiment sont extrêmement intelligentes et on s'est engagé hier à en prendre en compte 60% et on est en train d'instruire les autres. Sur la vaccination, ce qui existe déjà dans mon espace santé, c'est une première version du carnet de vaccination. L'usager peut le remplir lui-même, les professionnels de santé également. Ils pourront le faire de façon d'autant plus fluide que le Ségur va accélérer tout ça là, sur cette année 2022. Par ailleurs, on a prévu une alimentation automatique du volet vaccination avec les données issues de vaccins Covid, pour que les données de vaccination Covid soient automatiquement implémentées dans le système, dans le carnet de vaccination de mon espace santé à son ouverture. Et par ailleurs, dans les prochaines étapes sur les aspects de vaccination, on va ajouter des rappels dans le carnet de vaccination, rapidement, hein, là, au S1 2022. Notamment au sujet des vaccinations obligatoires pour les enfants, qui sont quelque chose de compliqué à gérer. Et puis par ailleurs, on est aussi en train de travailler à aller plus loin, notamment dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne, où on souhaite vraiment impulser quelque chose de fort sur ces sujets, puisque pour pouvoir couvrir tous les schémas vaccinaux et les valences associées, il nous faut une nomenclature de référence sur des données de vaccination et un système expert qui permet de calculer les dates de rappel. Donc, dans cette perspective, on échange à la fois avec nos collègues européens, notamment le Luxembourg, qui ont fait des choses très bien sur ça, et sur des partenaires industriels experts du sujet, notamment mesvaccins.net, qui a aussi une vraie expertise au niveau national, et puis aussi les autres. Et donc, on travaille avec eux sur ce sujet-là pour aller encore plus loin sur le sujet valeur ajoutée du carnet de vaccination dans l'espace santé, sachant qu'on profite du momentum de la PFUE, la présidence française à l'Union européenne, de janvier à juin 2022, pour accélérer davantage ces sujets, notamment au vu du contexte et de la pandémie qu'on connaît. Ah, je m'arrête là, merci.
Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Laura. C'était de ces propos passionnants et passionnés. Ça fait plaisir de voir quelqu'un du ministère qui a autant de flammes dans son projet, et ça, c'est vraiment tout à fait porteur de quelque chose. Mais je sais qu'avec Dominique, vous êtes vraiment très, très impliqué sur le sujet depuis plusieurs années, et on voit les choses bouger, comme quoi quand on veut se mobiliser, on y arrive, et c'est très, très bien. Alors, je vais passer tout de suite la parole maintenant au professeur Milou Daniel Drissi et à Fanny Rocher. Comment on peut promouvoir l'acte vaccinal, Milou Daniel, pour voir comment les choses peuvent se mettre en place et s'améliorer par rapport à tout ça?
Bien, merci de nous donner la parole. Donc, je me représente, je dirige le Centre de pharmacovigilance de Nice, et ma collègue, Dr. Fanny Rocher, en est la directrice adjointe. Donc, nous sommes impliqués dans la pharmacovigilance, donc la sécurité des médicaments, donc des vaccins, et la promotion du bon usage des médicaments, dont des vaccins. Donc, c'est un réseau, les centres de pharmacovigilance, il y en a 31 en France, et nous avons la charge de plusieurs départements, nous en avons 3 à notre charge, et l'ensemble de la population peut bénéficier d'une information qui est médicale, scientifique et indépendante. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est que je suis aussi expert auprès de la Commission européenne pour la sécurité, la qualité et l'efficacité des médicaments à un niveau européen. Et là encore, ça concerne les vaccins. Donc, nous nous astreignons dans notre tâche quotidienne, et je pense que c'est le cas de chacun des centres de pharmacovigilance, à divulguer une information qui est scientifique et honnête auprès de nos concitoyens. Et c'est très important parce qu'il faut à la fois lutter sans cesse contre la désinformation d'une part, et beaucoup de nos concitoyens nous appellent pour demander si ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux est réel. Et on doit dispenser aussi non seulement la bonne parole, mais le bon sens médical et ce qui provient des différentes agences de tutelle et de l'Agence européenne du médicament. Donc, on s'astreint à le faire tous les jours. C'est un travail qui est harassant depuis 2 ans, on peut le dire. Et nous récupérons aussi les effets indésirables du médicament que nous faisons remonter, qui sont à la disposition au niveau régional, au niveau national à l'Agence du médicament, laquelle implémente aussi les bases européennes de surveillance des médicaments. Donc c'est un travail de tous les jours, c'est un travail que nous effectuons directement au contact du patient, mais aussi par une information qui est délivrée de manière radiophonique, de manière journalistique, voire télévisuelle, et nous intervenons relativement fréquemment. Donc c'est une lutte de tous les jours que d'essayer de convaincre les patients, d'essayer de lutter contre les lieux communs. Par exemple, ce matin à l'Europe, un des grands axes qui va être défini dans les prochains jours, c'est de promouvoir énormément la vaccination chez la femme enceinte. Donc, quel que soit le vaccin, ça va être une promotion. Donc, on n'en est plus au stade de nous dire est-ce que de répondre aux patientes qui disent oui, mais je ne savais pas, donc dans le doute, je m'abstiens. Il va falloir faire une promotion énorme de cette vaccination chez la femme enceinte, tant on sait maintenant que le bénéfice est assuré dans cette population. Donc, je vais donner la parole à Fanny qui peut donner quelques informations de plus, puisqu'elle est vraiment au terrain tous les jours et répond aux patients, aux demandes des patients et à leurs notifications.
Oui, merci Milou. Oui, donc nous, on est, comme disait Milou, effectivement, je pense qu'on s'inscrit bien dans ce contexte d'information que l'on peut apporter aux patients. Faire la promotion du bon usage, c'est l'une de nos missions principales, hein, c'est d'apporter la bonne information aux patients, mais aussi aux professionnels de santé. Hein, il ne faut pas oublier, il y a les professionnels de santé qui nous posent aussi des questions sur les recommandations individualisées pour leurs patients. Et puis, de plus en plus, on a une place importante dans l'information qu'on apporte aux patients et aux associations de patients. Comme le disait le professeur Drissi, on a beaucoup d'appels de patients qui sont un peu désemparés face à cette pandémie, qui ne savent pas comment faire, ils ont des craintes vis-à-vis du vaccin, on en entend depuis ce matin, bien évidemment. Donc, on est là pour les informer, pour les rassurer, pour leur donner des chiffres scientifiques, pour leur donner une information éclairée par rapport à tout ce qu'ils peuvent voir ou entendre sur les réseaux sociaux, sur Internet et redresser, je dirais, la barre par rapport à des informations. Et puis, bien évidemment, collecter aussi toutes les déclarations des faits indésirables. Ça, c'est pour le versant remonter des informations au niveau des autorités de santé. C'est ce que disait le professeur Drissi, ce qui nous aide. En fait, on contribue à améliorer l'information que l'on a sur le médicament et qui nous permet après de redescendre ces informations auprès des patients et des professionnels de santé qui sont sur le terrain. Donc, on a vraiment une mission d'interface, d'un côté avec les professionnels de santé à qui on remonte des informations, et de l'autre côté auprès des patients à qui on transmet les informations, je dirais, vraies, essentielles. En tout cas, on essaye autant que possible de donner des informations éclairées sur les médicaments, le vaccin leur donner les deux bons conseils. Un autre versant qu'on essaye de développer, on s'aperçoit de plus en plus qu'il est nécessaire d'accompagner les patients et les associations de patients pour gagner la confiance. Et on en avait déjà parlé avec M. Gérard, se rapprocher des associations de patients et impliquer en fait les patients, notamment des patients qui seraient experts ou en tout cas qui seraient des relais auprès d'autres patients et qui nous aiderait dans la communication auprès des patients et des associations de patients sur certaines thématiques et notamment sur la gestion de leur traitement, des effets indésirables et du bon usage. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment développer au niveau local et au niveau régional. Et je pense que, pour reprendre le sujet de cette table ronde, tout ce qui est outils numériques, justement, pour être plus proche des patients et des associations de patients, ce serait vraiment très bien. Donc, des petites vidéos, des cours en ligne, des chats, des échanges, tout ça, c'est très important et on ne demande qu'à pouvoir le développer, bien évidemment.
Mais alors, juste une question avant de passer la parole à Véronique Guillotin. Vous avez dû faire des fiches, vous avez dû faire des documents d'information, des choses comme ça. On a vu tout à l'heure qu'Eric Achula a fait quelque chose pour la filière maladies rares. Vous pouvez les partager, vous pouvez les mettre dans un, on va dire, dans un pot commun pour alimenter et les CRPV, et les professionnels de santé, et les associations.
Nous sommes impliqués dans beaucoup de documents qui sont officiels. Quand il y a eu la prescription, je dirais malheureuse, d'hydroxychloroquine l'année passée, immédiatement, nous avons souligné sa dangerosité et donné une fiche à l'ANSM et aux autorités de santé, une fiche qui indiquait les critères de surveillance du traitement si jamais on devait être amené à le prescrire et pour les patients à le prendre. C'est la même chose pour les myocardites dans la surveillance d'apparition d'effets indésirables cardiaques. Nous sommes le centre collecteur de ces événements pour les vaccins et on donne des conduites à tenir là aussi à l'agence du médicament. Et ce sont des documents qui sont disponibles sur le site de l'agence et on fait de même, on participe aussi à l'élaboration de documents avec l'agence européenne du médicament. Donc tous ces documents se sont à la disposition et on demande qu'elles développent avec les associations de patients aussi si, comme le disait Fanny, on doit thématiser une partie de cette information, par exemple chez les sujets qui sont immunodéprimés ou les sujets qui sont à risque ou à très gros risque de forme grave de Covid, par exemple, ça pourrait appeler à concevoir un document qui pourrait être partagé entre les différentes associations de patients, évidemment. Je suis certain que le réseau français de pharmacovigilance serait en premier lieu pour aider à la conception d'un tel document.
Oui, et on est évidemment, bien évidemment, qu'on peut communiquer, on peut transmettre nos documents. On a aussi notre journal qu'on édite tous les 3 mois, que l'on peut diffuser par messagerie. On diffuse à tous nos correspondants. Il y a des patients qui sont inscrits et qui reçoivent, c'est gratuit, hein, qui reçoivent gratuitement notre journal dans lequel on a en fait le point sur des effets indésirables, des demandes de renseignements qu'on a jugées pertinentes et qui sont disponibles sur Internet. Donc, en fait, on est en, bien évidemment, on partage ces informations-là et ces documents que l'on produit.
Non, ce n'était pas une critique, hein, c'était simplement pour savoir si justement on peut créer, on va dire, une espèce de molécule positive avec des informations qui viennent un peu partout, qui peuvent alimenter mon espace santé, qui peuvent alimenter des associations, des sites d'associations, d'autres acteurs qui peuvent être des entreprises, et ainsi de suite, pour que cette bonne parole et ces facteurs de succès puissent être le plus largement répandus et partagés avec tout le monde. Ce n'est pas la peine d'aller faire 3 fois le même travail. Si vous l'avez déjà fait et qu'il est de qualité, autant pouvoir le partager plutôt que d'avoir à le réécrire, parce que autrement, on a une perte de temps qui est majeure. Milou, juste une question sur les liens entre l'Europe et la France. Ça se passe bien, la communication est fluide, on n'a pas de... Parce que comme Laura parlait tout à l'heure de la présidence française à l'Union européenne, donc...
Ça se passe très bien. L'agence européenne est chargée de délivrer donc des autorisations de mise sur le marché européenne basées sur des critères de qualité, d'efficacité et de sécurité des médicaments. Ensuite, ces autorisations de mise sur le marché sont déclinées au niveau de chacun des États membres en fonction des autorités compétentes de santé ou de celles qui dirigent la vaccination. Par exemple, le vaccin, je donne un exemple, Vaxzevria AstraZeneca à l'autorisation de mise sur le marché d'utilisation en deux doses de vaccination. En France, il a été décidé de ne plus l'utiliser et de remplacer par le vaccin mRNA, c'est une décision qui est strictement française, alors que l'autorisation de mise sur le marché existe tout de même pour le vaccin Vaxzevria. Donc c'est un exemple, pas de dissonance, simplement de déclinaison qui est particulière. Les États baltes ont d'autres nécessités en termes de santé publique et d'économie de santé publique, donc ils vont vers des vaccins qui sont moins chers. J'en profite, c'est un point que j'avais souligné, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu accès au tout début au Green Pass européen qui avait été mis à disposition de l'ensemble des pays européens. Et malheureusement, quand j'ai essayé de le télécharger sur mon téléphone portable, ça a été impossible. Donc c'est un peu dommage. Ça fait un peu, là encore, de la dissonance européenne. Mais l'Europe est fondée de beaucoup de pays qui chacun peut être dissonant avec son voisin. C'est justement la richesse du rassemblement de l'ensemble de ces pays.
Oui, on a une anecdote comme ça chez Neil, où quelqu'un qui est d'origine néerlandaise, en fin de compte, a préféré télécharger son pass anti-Covid français parce que ça fonctionne, il fonctionne aux Pays-Bas, alors que le pass aux Pays-Bas, enfin, du Pays-Bas, ne fonctionne pas en France. Donc, on est encore sur des choses qui sont des choses à régler, mais je pense que ça va finir par se mettre en place au fur et à mesure. Alors, on parlait tout à l'heure d'excellence dans les territoires, du fait d'être proche des acteurs de terrain. Ghislaine Schmitt, que vous connaissez, Véronique Guillotin, est quelqu'un qui nous a fait un panégyrique de la région Grand Est. On aimerait beaucoup avoir votre éclairage par rapport à tout ça et savoir ce qui fait qu'il y a cet esprit extrêmement positif de co-construction avec les acteurs, pas simplement les acteurs de santé, mais également avec les élus, avec les collectivités territoriales. Qu'est-ce qui fait ce génie de la région Grand Est par rapport à ces questions de santé publique?
Bonjour à ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure et rebonjour. Donc, la Véronique Guillotin, moi je suis médecin d'abord. Voilà. C'est mon métier. J'ai été élue assez tardivement conseillère régionale depuis un mandat. J'entame le deuxième. C'était mes premiers mandats exécutifs. Donc, j'étais vice-présidente à la région en charge des questions de santé sur le premier mandat. Et j'étais rapidement élue donc au Sénat, donc je suis sénatrice, vice-présidente de la commission des affaires sociales au Sénat, et donc je suis toujours dans la santé, hein, et conseillère régionale, donc en charge, enfin présidente de la commission santé, mais je ne suis plus dans l'exécutif. Enfin, merci pour les compliments pour la région Grand Est. En fait, c'est une volonté, c'est-à-dire que je pense que le fait d'avoir un président médecin et un élu médecin fort attaché à ces questions font que la région s'est engagée de manière très volontaire sur les questions de santé, avec une impulsion du président Rottner qui n'a pas été qui n'est pas anodine et qui permet aussi en fait ce boost sur les compétences qui sont pas des compétences obligatoires parce qu'on a des compétences régaliennes en matière de santé, mais où on a compris qu'on avait en fait un rôle à jouer. Le premier rôle que l'on a joué, en fait, c'était dans l'aménagement du territoire, plus particulièrement. C'était plutôt une compétence classique des régions, c'est-à-dire comment les premières soutiens aux maisons de santé pluriprofessionnelles, c'était des choses, je vais t'en dire, assez précoces en région Lorraine, d'ailleurs, moins en Alsace, mais en tout cas, c'était un peu une expérience Lorraine très, très précoce qui a été, on a essayé d'harmoniser la région quand elle s'est regroupée, on l'a nivelée par le haut, en fait. Et puis, le président a amené une impulsion pendant la crise Covid. Et cette crise Covid nous a permis, nous, à la région, en fait, de nous poser, puisqu'on ne pouvait plus se réunir, et de faire un état des lieux en se disant qu'est-ce que la région, en fait, peut apporter à la santé, en étant quand même très convaincue que la décentralisation et d'aller au plus proche des territoires, des préoccupations et des particularités, parce que le niveau national met un cadre. Une région n'est pas l'autre, on est une région très frontalière et j'entendais l'orateur précédent parler de l'Europe. Nous, on est confrontés à l'Europe du côté luxembourgeois, du côté de la Belgique, du côté de la Suisse, du côté de l'Allemagne. et pour ainsi dire, avec des particularités transfrontalières pour nos habitants qui sont quelquefois et très souvent une chance, mais qui sont aussi quelquefois des problématiques à lever. Et notamment pendant la crise sanitaire, on voit bien les décisions que les Allemands ont pu prendre, par exemple de manière abrupte pour les tests, alors qu'il y avait des travailleurs frontaliers, ou le Luxembourg qui n'a pas les mêmes règles que la France pour l'accès, par exemple, au travail au Luxembourg, il faut le passe sanitaire. Pardon, je tiens mon passe sanitaire. Il faut le passe vaccinal à partir du 15. C'est-à-dire que le frontalier qui travaille au Luxembourg, ils sont plus de 100 000 quand même à traverser. S'il n'est pas vacciné, ben ne peut plus accéder à son emploi luxembourgeois. Et on a connu, nous, en ricochet, un boost des vaccinations la semaine dernière, par exemple, sur nos territoires. Voilà. Donc, c'est une région assez particulière, avec une vraie volonté. Et on est très engagé donc, sur l'aménagement du territoire. Et faire de la santé, en fait, un espèce de fil conducteur des actions de la région. C'est-à-dire, dans chaque politique publique, c'est comment on peut améliorer alors la santé, pas au sens du soin, hein, voilà, la santé One Health, en fait, voilà, l'environnement, l'aménagement du territoire, les pistes cyclables, et puis notre cœur de métier, enfin notre cœur de commission, c'est-à-dire aujourd'hui, l'aménagement du territoire à travers la santé, les outils numériques, ça a été dit précédemment. On tient à être une région exemplaire en matière de développement de très haut débit et en matière d'usage en fait, numérique, que ce soit par le déploiement de la télémédecine. Donc là, on déploie un plan assez innovant, État-région. Donc on essaie toujours d'aller chercher effectivement nos partenaires. Et en la matière de santé, ben, c'est l'État et l'ARS. Ce n'est pas toujours un exercice aisé parce que ce ne sont pas des partenaires qui sont habitués à travailler ensemble. En tout cas, il y a un binôme préfète de région et président de région qui est voilà, qui sur plein de sujets travaille ensemble pour travailler mieux. Et donc là, on déploie ce fameux plan de télémédecine. Et sur les sujets de prévention, ben, c'est en gros à peu près la même chose. Donc concernant la réflexion plutôt vaccinale, et aujourd'hui, en vous écoutant, en fait, j'ai plein d'idées qui ont émergé. J'ai fait quelques correspondances avec la région et je pense qu'on peut encore aller plus loin. Effectivement, donc déjà merci parce que quand vous nous avez sollicité, on s'est quand même posé la question sur le vaccin HPV en se disant ben oui, effectivement, donc il y a la région Grand Est a quand même été, j'allais dire repérée, oui, enfin ciblée par l'État pour être une région, un territoire expérimental pour le développement, en tout cas un meilleur développement de la politique de vaccination contre l'HPV. Et puis, comment la région pouvait rester en dehors de ça, enfin, c'est quand même… C'était pas à la base, évident, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu vous qui nous avez… qui êtes venu nous chercher en disant, ben voilà, la région, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on a tout à faire. Enfin, on a tellement de choses et on a quasiment tout en main. C'est-à-dire, l'HPV s'adresse aux jeunes, on a un conseil régional des jeunes… il y a une communication à faire, on a des outils de communication, nous avons toujours par ce souci de numérisation et de rapprochement en fait, de la région de nos concitoyens, on a des plateformes citoyennes où les gens peuvent intervenir, on est énormément sur les webinaires de communication, les webinaires de sensibilisation. Très dernièrement, on a fait des webinaires élus pour la télémédecine, des webinaires professionnels de santé sur la télémédecine et on peut transposer très facilement. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut se saisir de cet enjeu, du vaccin HPV, puisque c'est peut-être ça qui nous a mis le pied à l'étrier. Mais quand on voit l'actualité pour le vaccin Covid, on se dit qu'on a effectivement une belle carte à jouer sur la région Grand Est en ce domaine. Et donc les pistes qu'on a évoquées, c'est une grande participation citoyenne. Donc l'HPV, on a activé donc, notre conseil régional des jeunes. On va faire un colloque de la santé des jeunes avec eux. On va les mettre autour de la table et leur faire exprimer en fait leurs priorités de santé. Qu'est-ce que pour eux, ils considèrent être une priorité, en tout cas pour leur santé dans notre région. Et puis lancer des appels à projets, parce que derrière, à part parler, c'est pas ça, mais une fois qu'on a parlé, ciblé, repéré, écouté, consulté, on définit des priorités et ensuite on fait quoi de ces priorités et que peut faire la région? Elle ne peut pas toujours agir en propre. Enfin, voilà, on ne va pas aller distribuer, prendre des vaccins ou des choses comme ça. Par contre, on a une capacité de lancer des appels à projets, de budgétiser, de lancer des appels à projets sur des actions qui pourraient nous intéresser. Et l'HPV, c'est en fait ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on a les lycées qui sont nos publics cibles et ça correspond très bien en fait au public de l'HPV, c'est lancer des appels à projets dans les lycées ou sur des associations, des collectifs, hein, voilà, ou des hôpitaux, des structures hospitalières, des maisons de santé, pourquoi pas. Et se dire, voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des communications. Alors, l'idée est à peu près claire dans notre tête. C'est faire un appel à projet sur des communications innovantes qui touchent les jeunes, c'est-à-dire sortir du flyer que l'on va coller sur le petit carreau de la restauration scolaire du lycée, voilà, faire une communication par les pairs. Ça a été dit également tout à l'heure par un orateur, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus efficace, et les pays du nord de l'Europe nous l'ont montré, qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un jeune qui s'adresse à un autre jeune. Donc, l'idée, c'était d'aller sur ce type de communication un peu originale, peut-être mettre des jeunes sur des petites mini-vidéos qui pourraient travailler. Voilà. Donc, en fait, ça va être très, très descendant. L'appel à projet va être cadré en fonction donc, de cette grande assemblée régionale des jeunes, et puis pouvoir lancer un appel à projet sur des communications. Et ce modèle-là, donc, on l'évaluera, bien évidemment, parce que l'idée, c'est aussi de dire qu'il faut qu'on tente d'évaluer nos politiques publiques à un moment donné. On n'est pas là que pour se faire plaisir. Et si toutefois, ce modèle-là est un modèle efficace, ben, pourquoi pas étendre, par exemple, un modèle pour la vaccination générale. Moi, je suis une convaincue, donc... qu'il faut, et franchement, la nuit que j'ai passée au Sénat m'a renforcée dans l'idée de me dire qu'on avait tellement de fausses nouvelles, des fake news qui circulaient, quelquefois de mauvaise foi, mais très franchement pas toujours, et qu'il était important, et qu'il y avait des gens qui avaient soif de comprendre. Donc c'était pas tout de dire il faut vous vacciner, je pense que c'est pas suffisant. Je suis un peu dans le monde du sport et c'est un peu marrant. Quand on fait un peu de coaching, par exemple, et qu'on dit aux enfants sors de là, enfin, si on lui donne les clés, il vous regarde avec des grands yeux. Et c'est pareil, vaccine-toi, ça ne veut pas dire grand-chose. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui se dit qu'il y a peut-être des effets secondaires qui ne sont pas maîtrisés, quelqu'un qui pense que c'est plus délétère, quelqu'un qui pense que ça ne sert à rien, quelqu'un qui pense qu'il a plein d'anticorps et donc du coup, s'il se fait vacciner, c'est dangereux pour lui. Donc, comme il a des anticorps, il est protégé. Enfin, tout ça, il faut amener une parole scientifique derrière et une parole rassurante et pragmatique. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a effectivement que les régions ont beaucoup à faire sans empiéter sur d'autres compétences et sur les compétences d'État, mais s'intégrer dans ce cadre-là pour être plus proche et être peut-être plus participatif, et les assemblées citoyennes, et donner la parole en fait, aux patients citoyens, peut appartenir aux régions. Parce que quand on regarde l'HPV, l'État a lancé effectivement cette expérimentation, mais ça va se passer par des courriers qui vont aller chez les médecins. Est-ce que c'est suffisant? J'en suis pas sûre. Et du coup, je pense que les collectivités ont tout leur rôle à jouer dans cette campagne, et dans d'autres d'ailleurs. Voilà un petit peu pour... cadrer un peu les choses. Moi, ravie en tout cas de pouvoir participer. Et je pense que également ces forums entre professionnels, entre citoyens, entre collectivités, enfin voilà, mettre tout le monde autour de la table nous fait prendre conscience des choses, peut-être également un partage de bonnes pratiques qui est également important.
Merci beaucoup pour ce plaidoyer, Véronique. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est ici, on est tous passionnés par la cause. Donc, c'est un renforcement positif vis-à-vis de l'intérêt de la vaccination. Et ça fait du bien de temps en temps de se retrouver un peu entre nous pour se dire qu'il y a des bonnes choses et qu'il y a des choses qui réussissent. Et je crois que ça fait partie des messages qui sont forts parce que des occasions de... quelquefois de déprimer un petit peu, il y en a aussi pas mal à cause de cette crise en particulier. Et donc voilà, moi c'est ce que j'aime dans ce colloque de ce matin, c'est voir l'énergie de Laura, la vôtre, celle de Mélanie, celle de Milou et de Fanny. Tout ça va dans le bon sens, et il faudra qu'on en fasse d'ailleurs un condensé pour faire des propositions. Mais je crois qu'on a vraiment de la matière. Alors, pour finir cette table ronde, Arnaud, je te passe tout de suite la parole. Comment, quand on est une entreprise privée, on peut participer alors, bien sûr, on peut participer à des prises de rendez-vous, comme l'a fait Maya, mais comment on peut même aller plus loin trouver de nouvelles solutions, apporter de nouvelles idées à un contexte, au contexte général et en particulier à la suite de cette crise et dans la population qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont les patients à risque accru d'infection et immunodéprimés.
Eh bien, bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci, merci pour l'invitation, Olivier. Alors, il y a un intérêt d'être le dernier à parler, c'est que je vais pouvoir me nourrir un petit peu de tout ce qui a été dit par les précédents intervenants. Puis après, l'inconvénient, c'est qu'il y a déjà eu tellement de choses qui ont été dites et tellement pertinentes que je vais essayer quand même d'apporter un petit peu un regard justement en tant plutôt qu'industriel du numérique en santé. Si tu me permets, Olivier, je vais partager quelques slides pour étayer un peu mon propos. C'est pas que je me rappelle pas de ce que j'ai à dire, mais c'est que c'est toujours bien de garder et de dynamiser un petit peu tout cela dans ce que je vais vous dire. Je vais partager. Est-ce que je peux partager d'ailleurs? Je peux pas partager. Est-ce que tu peux me donner la main, Olivier? Mais on ne t'entend pas.
Non, je suis nul sur le plan de la technique, donc je serais incapable de te dire comment faire.
En fait, moi, je ne peux pas. Ah, ça y est, attends, ouvrir le wag de partage.
On vient de donner la main,
ça y est, je peux.
Voilà, c'est Germain, notre grand ordonnateur, c'est Germain.
Merci, Germain.
Pour donner la réponse.
Merci, Germain. Est-ce que vous voyez ma présentation?
Parfait.
Ok, super. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais essayer d'être le plus concret possible sans être technique. Vous avez de la chance, je ne suis pas technicien non plus. Sur les cas d'usage, justement, pour accompagner notamment cette partie vaccinale au travers d'outils numériques en santé, je voulais juste vous redonner, parce qu'il y a des éléments qui ont été indiqués tout à l'heure en termes de chiffrage, sur la partie vaccinale et sur la partie vaccination, on fait chez CGDIM, puisque Maya fait partie d'un groupe qui s'appelle CGDIM, qui est un éditeur de logiciels français. On fait aussi des études et des observatoires épidémiologiques et du suivi, notamment, de mesures d'observance, et on en a fait dans le cadre de la vaccination. Et on est en mesure, parce que l'on collecte tout un tas d'informations, on est en mesure de calculer des délais entre un moment de prescription par un médecin et l'achat du vaccin, entre le délai entre l'achat du vaccin et la vaccination du patient, et après de faire un calcul aussi entre la date de prescription du vaccin et la vaccination du patient. Tout ça nous amène en fin de compte à, sur un vaccin en particulier, on pourrait le faire sur d'autres, là c'était sur le rappel des TP, plus d'un quart des patients n'achètent pas le vaccin prescrit. C'est quand même un élément qui est assez frappant. Et nous, sur une base d'observation, puisqu'on n'a pas l'exhaustivité des patients, vous vous en doutez bien, mais sur une base d'observation d'à peu près 24 000 patients, 12% ont été vaccinés seulement dans le mois suivant la prescription, un taux qui double à l'horizon de 3 mois, 31 à 6 mois et 36 à l'horizon de 12 mois. Donc en un an, 36% des patients qui se sont fait prescrire et vu prescrire un vaccin se sont fait effectivement vacciner. Donc, on est vraiment sur un taux d'inobservance qui est assez colossal et tout le monde l'a relevé. Et c'est, l'idée, c'est de se dire comment on accompagne cela un petit peu mieux au travers de, je vais parler de motorisation, en fin de compte, d'outils numériques pour accompagner tout cela. Bon, c'est une situation qui, apparemment, avec la Covid, s'est un peu aggravée. Hein, ça, on le sait. Il y a eu des rapports qui sont sortis. On voit que là, sur le cas notamment de vaccination antitétanique, il y a eu une chute de la vaccination antitétanique durant cette période Covid. Bon, alors, en ce qui concerne l'équité homme-femme, bonne nouvelle par contre là-dessus, il n'y a pas de différence de comportement entre les hommes et les femmes. Au moins, à ce niveau-là, nous sommes égaux. Et il y a une meilleure observance chez les patients âgés. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit tout cela, je vais revenir sur certains éléments que vous avez pu tous apporter. Déjà, la première des choses, il y a comment le patient peut être un petit peu plus acteur de sa santé, comment on peut l'accompagner dans cette démarche et comment les professionnels de santé qui demeurent le relais de confiance vis-à-vis du patient peuvent être impliqués dans cette démarche. Et ça passe par le médecin. Mais là aussi, on l'a dit tout à l'heure, ça ne passe pas que par le médecin. Et je pense que le maillage territorial, il est capital. Et là, je vais vous donner, sans pour autant retenir des chiffres, moi, je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, il faut savoir équiper les professionnels de santé, que ce soit des médecins, on a parlé des pharmaciens. On a une chance en France, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas pour l'instant, en tous les cas, de désert pharmaceutique. C'est-à-dire que vous trouvez une pharmacie quand même à proximité du patient. Et les paramédicaux, on parle aussi des kinés, on parle des infirmières. Bah, tous ces individus peuvent être à un moment donné acteurs justement et autour du patient. Et on le voit notamment avec la mise en place de nouvelles structures, on en parlait tout à l'heure aussi, au travers des maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout au moins des communautés professionnelles territoriales de santé. Et il faut apporter des outils, et ça, ça fait partie de notre boulot, en fin de compte, chez CGDIM au sens large, c'est d'apporter des outils pour le numérique en santé, pour la coordination du parcours patient, avec l'aide, bien évidemment, des professionnels de santé. Donc ça, c'est vraiment un élément qui nous semble essentiel, et c'est ce sur quoi on travaille, c'est ce qui nous tient éveillés la nuit. Si on rentre un peu plus dans le détail de Maya, qui a été l'une des trois plateformes retenues pour la vaccination Covid, bon, bah ça, c'est un élément qui est quand même important. C'est comment nous, acteurs du privé, on contribue dans le cadre justement de la pandémie à améliorer le parcours du patient et à accéder aux soins. Bah ça en fait partie. Je pense que si, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez encore mon ordinateur. Vous voyez le site internet ou quoi là, ou juste le slide?
On voit la slide là.
On voit la slide.
Ah d'accord. Alors ouais, donc il faut juste que je vous montre, et c'est à titre indicatif, il faut que je repartage quelque chose. Ça va prendre une seconde maintenant qu'on sait comment ça marche. Voilà, je vous partage juste cela. C'est juste pour vous montrer, voilà, les centres vaccinaux, ils sont aussi bien effectivement sur des vaccinodromes. Là, j'en ai un qui est juste à côté de chez moi et c'est tant mieux. Mais vous avez aussi les pharmacies qui sont mises aussi en route, comme vous le savez, sur la vaccination, et y compris aussi le corps médical. Donc, au travers des applications et des services comme ça que l'on rend aux patients, je pense qu'on contribue concrètement, effectivement, à accéder à des professionnels de santé et à un soin. Ça, c'est dans le cadre de la COVID, mais bien sûr, vous pouvez imaginer qu'on peut le porter sur tout type de vaccination. Je reviens dans une seconde. Excusez-moi un tout petit instant. Hop. Je vais repartager mon écran. Et vous devez entendre, en même temps que je vous parle, des petits aboiements de chiens. Voilà. Ça, c'est l'intérêt d'être à distance, c'est que j'ai deux magnifiques chiens qui ont deux neurones chacun, ou alors ils se les partagent et qui ne trouvent pas mieux d'aboyer pendant que je parle. Si on revient sur la partie Maya, en un instant, c'est une plateforme praticien-patient, donc il va faire de la prise de rendez-vous, comme tu l'indiquais à l'instant, Olivier, mais ça ne fait pas que cela. Aujourd'hui, ça fait du rendez-vous en ligne, ça fait de la téléconsultation. Je dois remarquer d'ailleurs en ce qui concerne la téléconsultation, la télémédecine dont parlait Véronique Guillotin. Oui, effectivement, je reconnais que la région Grand Est a été très active et a eu une démarche, je dirais, proactive aussi avec les industriels du privé pour mettre en place, aussi pour accompagner cet usage et de l'éducation du professionnel de santé et des patients dans leur région. On fait du partage de documents qui va inclure jusqu'à la prescription. Là, je reviens sur ce que disait aussi Laura tout à l'heure. C'est une technique de petits pas rapides. C'est qu'avant de faire une prescription, une e-prescription totalement structurée, on est aussi en mesure de manière sécurisée d'échanger des documents dans un environnement hébergement de données de santé, etc., y compris des PDF. Donc, ce n'est pas super structuré, mais au moins, vous êtes sur une digitalisation quand même de l'approche. On peut fournir de l'information sur le médicament. Ça aussi, c'est un élément qui me semble important. Je dis information du médicament, ça pourrait être tout autre type d'information. C'est-à-dire qu'au travers de notre plateforme, à laquelle accèdent quand même plusieurs millions de patients chaque jour, on pourrait envisager de mettre d'autres types d'informations. Fanny et Milou en parlaient. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de mettre à disposition les informations de pharmacovigilance, par exemple, pour le plus grand nombre? Et demain, ce sur quoi on travaille, là aussi, autre élément concret. On parlait du patient acteur de sa santé. On voit grandir, alors en France, c'était le cas déjà dans d'autres pays, mais en France, on voit grandir effectivement le poids du patient et notamment l'avis du patient vis-à-vis de son traitement et vis-à-vis du soin qui lui est porté. Et sans rentrer dans des terminologies anglicistes, il y a tout un tas de questionnaires qui se mettent en place pour suivre, pour comprendre comment le patient se sent vis-à-vis de son épisode de soin, mais aussi vis-à-vis de l'expérience qu'il a vécue dans un établissement hospitalier, par exemple. On appelle ça des PROM et des PREM. Donc, pour les Anglais, c'est des Patient Reported Outcome Measures ou Patient Reported Experience Measures. Et c'est clairement l'avis du patient, c'est du déclaratif du patient vis-à-vis de son traitement sur une pathologie donnée, et on travaille là-dessus pour le mettre à disposition dans Maya. Le télésuivi, le chat patient, là aussi des outils de chat entre professionnels de santé et patients. On le fait déjà de professionnels de santé à professionnels de santé. On va le faire vis-à-vis des patients. On vit dans un monde de messaging, on est tous à même d'utiliser du WhatsApp, etc. Il faut maintenant, je dirais, médicaliser et sécuriser un petit peu plus ces flux d'informations. Laura l'évoquait tout à l'heure et ça fait partie aussi de nos credos. Et le dernier élément sur lequel je voulais insister aussi, c'est qu'on travaille justement sur le lancement d'un centre de notification concernant les épisodes de soins spécifiques d'un patient. C'est-à-dire que le patient, en fonction de ce qu'il va renseigner à un moment donné dans Maya, eh ben on va pouvoir l'informer, le notifier, le reminder selon ses vaccinations, mais pas que. Parce qu'on peut aussi envisager des dépistages, on peut envisager tout élément de santé publique qui pourrait être intéressant, pour lequel il pourrait être notifié de prendre rendez-vous auprès d'un professionnel de santé. Donc là, alors là, je suis très ouvert pour qu'on puisse en discuter avec les associations de patients notamment, pour savoir exactement comment on pourrait organiser ces centres de notification auprès des patients. Et puis, juste pour vous montrer aussi les choses les plus concrètes possibles, c'est comment on accompagne tout cela auprès des professionnels de santé. Là, je reviens sur la partie professionnelle de santé. Là, vous êtes…
Il faut qu'on soit un petit peu… Si on veut respecter l'horaire…
Eh bien, juste après, pour tout dire, j'ai fini. Donc là, c'était un cas très concret de vaccination. Puisque là, vous voyez un logiciel de médecin. On est tout à fait en mesure, en fonction de certains critères concernant les patients de ce médecin, d'avoir là aussi dans les logiciels des médecins des notifications d'informations. Et là, ce sont des choses que l'on a mises en place déjà avec Santé publique France, concernant des vaccinations, des rappels de vaccination, grippe, coqueluche, méningocoque, selon le cas du patient. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas les trois vaccins qui apparaissent à ce moment-là, c'est en fonction du cas du patient. Et ça, ce sont des choses, vous êtes sur le poste du médecin, et voilà les messages qui peuvent apparaître. On parle de communication, et encore une fois, ça demeure le professionnel de santé qui est le vrai relais de confiance auprès du patient. Dernier point, et j'en aurai terminé, Olivier. Tu vois, j'ai été assez rapide, j'espère. Concernant ma santé 2022, on est totalement impliqué et totalement derrière avec la DNS et le ministère de la Santé. On fait partie effectivement des solutions qui seront dans mon espace santé numérique et qui accompagnent aussi les professionnels de santé sur l'autre partie qui est le bouquet de services pour les professionnels de santé. Voilà un petit peu concrètement ce que l'on peut faire en tant qu'industriel pour la santé publique et aussi pour le bien des patients quand même.
Merci beaucoup Arnaud, c'est tout à fait passionnant parce que cette intelligence collective va nous apporter très certainement beaucoup plus de satisfaction et répondre à beaucoup plus de problématiques que celles qui peuvent être apportées par un seul acteur. Et je crois qu'il faut bâtir... Ben moi, c'est mon souhait, hein, c'est qu'on finisse par bâtir un système de santé qui soit un système de santé co-construit par tous les acteurs de santé, à commencer par les, bien entendu, par les malades. Et si on peut tirer de cette crise de la Covid des leçons pour le mieux travailler ensemble, je pense que ça fait partie des choses qui sont tout à fait importantes quand on voit les développements, la créativité de chacun des acteurs pour travailler et se mobiliser autour d'une cause commune. Je crois que Gérard, tu voulais reprendre la parole juste à la fin de cette table ronde, avant que je donne la parole à Yves Buisson, à qui on va laisser un peu de temps pour nous faire son décryptage et nous dire quels sont les points saillants qu'il aura retenus de ce colloque. Donc Gérard, la parole est à toi.
D'accord, très bien. Bon, je vais enfoncer le clou entre guillemets. Mais je voudrais vraiment mettre en avant la qualité donc, de la séance de ce matin. On a eu de nombreux connectés là, depuis 8h30. C'était quand même une séance très très longue. Et je vais remercier à nouveau, mais vraiment du fond du cœur, l'ensemble des intervenants. Désolé, je ne vais peut-être pas pouvoir tous les citer. En hors femme, je vais commencer avec le professeur Odile Launay, qui est toujours à nos côtés. Je remercie le professeur Alain Fischer qui est intervenu. On sait que ces gens-là sont extrêmement sollicités en ce moment de par l'aspect de la Covid. Donc, c'est vraiment sympathique qu'ils soient joints spontanément au niveau de cette rencontre. Le docteur Paul Loubet, Bernard Charpentier qui est au niveau de l'Académie nationale de médecine et Yves Buisson qui est intervenu au niveau de chaque table ronde et qui va d'ailleurs intervenir le dernier mois. Merci donc à tous les gens connectés et puis un merci final à Neil pour l'organisation de cette très, très belle rencontre. Donc je cède la parole, à Monsieur Buisson.
Oui, Yves, merci beaucoup Gérard pour ces remerciements qui sont bien mérités et qui ont fait de cette matinée qu'elle est passée presque trop vite.